Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons dans nos lectures en liberté pour une dernière semaine avec Les Marins perdus de Jean-Claude Izot. Le sourire de Mariette disparut en voyant la tête de Diamantis. Ce n'était pas Quasimodo, mais presque. Sa lèvre supérieure était fendue et gonflée. Son œil gauche était à moitié fermé et dessous, sa pommette virait au bleu. Du sang coagulé pendait sous le nez. Du sang, il en avait aussi plein la chemise. Mon Dieu! Il sourit, enfin il crut sourire. C'est pas minuit, j'espère. Cela ne la fit pas rire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Après, j'ai besoin d'un verre. Et il se laissa tomber dans un fauteuil en rotin. Il allait tourner de l'œil. Whisky? Elle proposa. Il fit oui de la tête. Diamantis avait rassemblé ses forces et s'était relevé presque immédiatement après le départ de la Safrane. Mariette habitait le vieux quartier, place des Moulins, en haut de la butte. Il se traîna à travers les ruelles étroites et désertes. L'air chaud lui emplissait les poumons. Il s'arrêta plusieurs fois, s'appuyant à l'angle d'un mur pour reprendre des forces. Rue Vieille Tour, il prit à gauche. Il se perdit Place Lorette. Appuyé contre un banc, il reprit sa respiration. Une odeur âcre flottait. Il vit un chat courir le long du trottoir. Il tremblait. Une mobilette déboula du haut de la rue. Elle freina à sa hauteur. Diamantis tourna la tête. C'était un jeune black, rasta, des pieds à la tête. « Hey mec, ça va ?» Il descendit de sa mobilette et s'approcha de Diamantis. « Putain, ils t'ont arrangé, hein, tu vas où ?»«
Place des Moulins. »«
C'est juste là !» il fit en désignant une rue sur sa gauche. « Je vais t'aider. »«
Merci. »
Il passa deux chaînes à sa mobilette, une à la roue avant, une à la roue arrière, et ferma les deux quendas.
« Bah sinon, je me la fais chourer !» il expliqua.
Il fit passer le bras de Diamantis sur son épaule.
« Vas-y, appuie-toi, c'est à 50 mètres, mec, t'es arrivé !»
Diamantis traînait les pieds plus qu'il ne marchait.
À quel numéro?
Il ne restait qu'à grimper quelques escaliers. La place était là, avec ses platanes magnifiques.
Le 4.
Ils se serrèrent contre la rampe. Diamantis y prit appui. Il ne sentait plus son corps, que la douleur, partout.
T'habites là?
Une amie.
« Bienheureux tu vas être, tu vas voir. »
C'était une petite bâtisse de deux étages. Mariette habitait au second.
« Tiens, » dit-elle, en lui tendant le verre.
Il avala une grande lampée de whisky, puis une deuxième, il se mit à transpirer. Mariette lui tendit un verre d'eau et deux doliprane.
« Avale ça. »
L'eau était fraîche.
« Encore, » il dit.
« Du whisky ? » «
De l'eau. »
Elle le resservit. Elle l'aida ensuite à se lever et l'entraîna vers la chambre. Une douce lumière bleue la baignait. Elle l'allongea sur le lit.
« Désolé !» il balbutia faiblement.
Ses yeux se fermaient.
« Chut !»
lui murmura-t-elle à l'oreille. Elle le déshabilla avec tendresse, essayant de le bouger le moins possible.
Puis elle revint avec une bassine, un gant de toilette et nettoya le sang sous son nez et autour de ses lèvres. Il se laissa glisser dans les draps. Ils étaient frais. Et cela lui fit un bien immense. « Mariette !» Elle posa un baiser sur son front. Noir total. Abdul Aziz et Nedim mangeaient en silence, face à face. C'était encore du riz et encore des maquereaux. Le vin avait toujours le goût de piquette, mais Nedim ne fit aucun commentaire. Abdul Aziz tirait la gueule à cause de Diamantis qui n'était pas rentré. Aucune raison pour que sa mauvaise humeur se retourne contre lui. Il ne put cependant s'empêcher de parler. Parce que les maquereaux, non, il ne pouvait pas avaler ça. Bien sûr qu'il s'est levé une poule. Vu comment il était fringué ce matin, vous avez vu ? Non, putain, il était sur son 31. Abdul lui lança un regard assassin. Et alors ? Alors tiens, il va pas rentrer. Voilà ce que je pense. Où qu'il a son nez, ça doit pas sentir le maquereau. Ben, il m'en informe au préalable. Toujours, je suis le capitaine, et c'est une règle. Ben, vous êtes le capitaine, ok. Personne n'y conteste ça. Mais prenez-vous pas la tête, hein. Qu'on soit tous les deux, qu'on soit tous les trois, ça change quoi ? Rien. L'Aldébaran, il risque pas de partir sans lui, pas vrai ? Nedim se leva, ramassa son assiette, son verre et ses couverts. Il les lava en sifflotant, fier de lui. Il se retourna vers Abdul. « Et si on se faisait une petite partie de domino, non ?»«
Bah t'es nul à ce jeu. Nul, nul, c'est vite dit.
D'accord, » fit Abdul. Après tout à quoi ça l'avançait de se prendre la tête, Nedim avait raison. Il n'en avait rien à foutre des histoires de Diamantis. Il râlait pour le principe c'est tout ce qui lui restait aujourd'hui. Nedim jouait mal. Il était incapable de se concentrer. Il pensait à Diamantis, quel cachotier. Il aurait pu lui dire, merde, qu'il n'allait pas rentrer cette nuit. Il lui faisait pas confiance ou quoi ? Il était trop con, peut-être ? Sûr, il devait penser ça, Diamantis. Bon, il l'avait aidé sacrément même, comme un vrai pote. Mais question confidence, zéro, le mec. Il le laissait en dehors de sa vie. Dommage. Ouais, c'était dommage. Il avait du respect pour lui. Diamantis, ça pourrait être un ami, un vrai, quoi, même après, ici. Il sourit. Abdul Aziz remarqua le petit sourire de Nedim. Quel tour foireux lui préparait-il ? Il lui restait 4 coups à jouer et selon ses calculs, Nedim était presque coincé. Il lui restait une seule chance. Qu'est-ce qui te fait sourire ? S'il faisait parler Nedim, il le déconcentrerait. Abdul n'envisageait pas de se faire battre par Nedim. Pas qu'il ne l'aimait pas, non, mais quand même se faire battre par lui dans un jeu aussi simple, ce serait assez insupportable, surtout qu'il ne se gênerait pas de rire de lui, Nedim, tout dans la gueule, pire qu'un Italien. Diamantis, il dit.
Quoi, Diamantis ?
Vous imaginez la tête chez moi ? Si je dis que mon meilleur ami, il est grec.
C'est ton meilleur ami ?
L'interrogea Abdul avec une pointe de jalousie.
Non, non, mais c'est pour parler, quoi.
Pour nous, les Grecs, c'est rien que des foutus enculés. Moi, je m'en tape. Turcs, Grecs, on bouffe tous des feuilles de vigne farcies. C'est comme si on têtait la même mère. Non, la différence... Bon, tu joues ?
Sans réfléchir... Nedim joua le 3-2, puis il laissa la main à Abdul. Celui-ci mit le double 2. Nedim était définitivement coincé.
Et merde, je passe. Mais t'es nul à ce jeu, je t'ai dit.
Ouais, ça serait mieux avec un petit quelque chose à boire. Savais pas où il l'a planqué, sa bouteille ?
Bah, dans sa cabine, sans doute.
Nedim le regarda.
« Vous qui êtes le capitaine, vous pouvez peut-être faire ça, non ? Aller dans sa cabine, vous lui expliquerez, quoi. »
Abdul ne se fit pas prier. Il n'avait pas sommeil et boire un verre ne lui déplaisait pas non plus. La compagnie de Nedim n'était pas désagréable, même si les discussions avec lui se limitaient souvent aux choses les plus simples. Ce soir, finalement, ça lui convenait bien.
Il s'était ennuyé comme un rat mort toute la journée. Il n'était même pas arrivé à lire 10 pages de son livre « Liban, lendemain de guerre », un cadeau de Walid. Il s'agit ni plus ni moins de savoir si ce pays en a fini avec les démons de l'épuration ethnique, affirmait un sociologue, Ahmad Bedoun, et si la paix inséparable ici de la mixité et des équilibres communautaires a des chances de durer. Dans sa tête, tout se bousculait. Ses faits, le Liban, Constantin Takis, l'Aldébaran, les femmes qu'il avait aimées, les ports qu'il avait connus, Diamantis, la vieillesse, son frère et ses projets d'investissement, les enfants qui grandissaient sans lui, l'argent qu'il faudrait pour s'installer au Liban, les ruines de Byblos, ses faits encore, ses faits toujours. Il avait fermé le livre. Il glissait sur une mauvaise pente. En vérité, il s'était mis à envisager l'avenir. C'était ça son problème. Ses faits l'avaient attiré là dans ce piège, l'avenir. Penser les jours qui viennent, leur donner un sens, les organiser. Ses faits n'avaient été qu'une bombe à retardement dans sa vie. Elle avait explosé et maintenant son existence volait en éclats. Il en était à ramasser les débris épars autour de lui. Sur le pont, cet après-midi, la ligne d'horizon, avait-il constaté, ne l'excitait plus comme avant. De l'autre côté, il n'y avait plus ses rêves, ni d'histoire à vivre. On en revient toujours de derrière l'horizon, comme on revient toujours de ses rêves. Des pensées qui lui cassaient le moral, mais qu'il ne pouvait empêcher. Un matin, on se découvrait installé avec femme et enfant dans une maison gentillette avec un certain nombre d'habitudes, de gestes répétés, de sourires convenus, des baisers hâtifs le matin, des soucis avec les enfants, des problèmes de fin de mois. Les années s'accumulaient, et cela s'appelait la vie. En l'acculant à choisir, ses faits l'avaient ramené à cette réalité, et il s'était soudainement découvert sans passion. Quand il s'était embarqué pour Sydney la première fois, il l'avait fait sans se poser de questions. L'avenir n'existait pas. Il n'attendait rien, il n'espérait rien, il était libre. Il jouait sa vie dans ce voyage, comme un aventurier. Il se découvrait aujourd'hui dans un rôle de fonctionnaire. La mer n'était plus qu'un gagne-pain. Il pouvait tout aussi bien être commerçant comme son frère Walid, ou hôtelier, ou restaurateur.
Scorfe les mains dans la mer. Les serpents bleus de mes cheveux s'envolent dans les blés verts. Dans ma bouche j'ai mâché tous les épis du conquet à Saint-Paul. Les coquelicots, les sémaphores jaillissent rouges du sol. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme. J'ai la terre aux pieds. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme. À Kerema, une vague ouverte avale le soleil. Je chevauche avec le vent d'ouest, les goémons du ciel. Jeanne, la jeune vierge lisse, m'attendait à l'ampoule. Ses mains mouillées de sirène m'écorchent sans bruit, de laine et la mer au cœur et la vague à l'âme. J'ai la terre aux pieds. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme. D'un rauque loco sans une grise, le jour est tombé. Elle avait ôté sa chemise et l'été haleté. Son ventre rond de femme lune allumait sa. Sous les pommiers, on mangeait des prunes en regardant les femmes. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme. J'ai la terre aux pieds. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme. Mer au cœur, vague, vague. la mer au cœur et la vague à l'âme. Le vent chante dans les fougères, les lézards sur mon dos. Mes oiseaux dorment sous mes paupières et voleront très haut. Suivront mes cuisses d'Orient à Vannes et mes bras à Lannion, qui ont construit des ports et des rames et les arches des ponts. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme, j'ai la terre. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme. Les bateaux chuchotent leur histoire à l'eau qui la connaît. Des usines s'endorment noires, un monstre est aux aguets. J'appelle à l'aide les clochers qui clament que filent les saisons. Je veux encore connaître les femmes qui sentent bon. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme, j'ai la terre aux pieds. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme. Mer au cœur, vague, vague à l'âme, terre aux pieds. J'ai la mer au cœur et la vague à l'âme.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Jean-Claude Isso, Les marins perdus. Abdul s'imagina dans le rôle de Pépé Abed, le propriétaire du Fishing Club à Byblos. Cheveux argentés, couvert d'une casquette de capitaine de marine, sanglé dans un blazer bleu sur un pantalon blanc. Âgé de 85 ans, il avait bâti sa fortune dans la frivolité du Liban d'avant-guerre. Il avait traversé les années noires avec insouciance et il était aujourd'hui à Byblos, ce qu'Eddie Barclay était à Saint-Tropez. Son club était devenu une sorte de musée d'antiquité marine où l'on se pressait pour écouter ses histoires. Ava Gardner y était venue, Raquel Welch, Anita Ekberg, Marlon Brando aussi. Abed est tantôt Pépé le pirate, tantôt Pépé le caballero. Et tout le monde se fichait bien de savoir si ces histoires étaient vraies. Abdul y avait emmené ses fées, parce que sa table était excellente. J'espère que tu ne finiras pas comme lui, avait plaisanté ses fées une fois dans leur chambre. Ils avaient ri. C'était il y a longtemps, 15 ans peut-être. Le voyait-elle maintenant dans des habits d'Abdul le vagabond des mers, à raconter ses aventures, un verre de margarita à la main, avec la même conviction que sur la terrasse le soir à Dakar. Grimaça. Une boule se formait au creux de son estomac. Ses fées le quittaient, mais lui aussi, il l'abandonnait. Elle n'était plus sa bonne étoile qui le guidait dans le bonheur. À un moment de l'après-midi, accablé par la chaleur, il avait tendu son hamac sur le pont principal à l'ombre, allongé, les yeux fermés. Il avait essayé de ressusciter des images excitantes de ses fées, l'envie de s'épuiser dans un spasme, les yeux fermés, l'air moite emplit la maison, l'orage menace, ses fées est sous la douche et il regarde l'eau couler sur son corps sépia. Elle aime ça qu'il la regarde, elle prend son temps. C'est ça, il s'était dit. Il avait compris pourquoi il n'arrivait plus à lui écrire. Leur histoire s'achevait. Le désir même ne les unissait plus. Il s'était endormi en se disant que demain il se trouverait une pute pour renouer avec sa vraie vie. Abdul s'envoya une rasade de whisky à même la bouteille. « Putain, vous buvez en juif !» s'exclama Nedim.
Il ne l'avait pas entendu venir. Je m'inquiétais, moi.
Abdul était au milieu de la cabine de Diamantis. Il avait attrapé la bouteille de whisky d'un geste machinal et il était resté planté là, debout. L'alcool lui brûlait l'estomac, là où ça faisait une boule. Il se mit à transpirer.
« Oh, ça va pas, vous êtes tout blanc !»
Son regard portait au loin, vers le large. « Là où la nuit, le monde nous abandonne. » Ainsi qu'il l'avait écrit à ses fées l'autre jour. Sa dernière lettre. Il se remémorait chaque mot lancé vers elle comme des feux de détresse. Nous demeurons avec le peu que nous pouvons deviner. Il se souvenait de ce sentiment en plein océan. Le Pacifique rejoignait le ciel dans une nuit sans étoiles et sans lune. Il ne distinguait rien autour de lui, même pas les myriades de vagues se brisant sur la coque. Notre champ de vision se rétrécit et se concentre sur ce qui résume l'univers, nous-mêmes, le désespoir.
« Hé, ça va ?»
Nedim lui toucha l'épaule légèrement, de peur de le voir s'écrouler. « Manquerait plus que ça, » il pensa. Abdul regarda Nedim. Il revenait vers lui, vers la réalité, Marseille, l'Aldébaran. « Si nous ne trouvons pas dans l'avenir ce que nous désirons, lui avait dit le sorcier Diouf, c'est que nous ne savons pas chercher. Il faut toujours espérer quelque chose. »«
Je ne crois pas à la sorcellerie, » avait-il répondu.
Diouf lui avait souri avec tristesse. « En quoi croyez-vous ?
En rien. Je vous plains. Je ne suis pas à plaindre. Vous comprendrez un jour, c'est possible. »
Abdulaziz avait posé 10 dollars devant le vieil homme. Furieux contre lui-même d'avoir accepté, pour faire plaisir à ses fées, de rencontrer ce sorcier. Ce n'était qu'un jeu au départ. Que pensez-vous de moi? Serais-je en bonne santé? Aurais-je de la chance? Gagnerais-je plus d'argent?
Ses fées l'avaient consulté avant lui.
Elle ne lui avait jamais confié ce que lui avait prédit Diouf. Le sorcier l'avait raccompagné. Souvenez-vous, aussi fort que puisse être un homme, il ne l'est pas en toutes circonstances.
Abdul se tourna vers Nedim qui ne savait que faire inquiet.
Tu sais, Nedim, demain avec Diamantis, vous allez me remettre le pont principal en ordre. C'est un vrai merdier.
Nedim le regarda ahuri.
Bah, c'est que demain, moi, il faut que je trouve un routier, moi. Demain, tu es de permanence, point. Tu verras avec Diamantis pour organiser votre temps. Moi, j'ai plein de choses à faire.
Dites, lâcha-t-il complètement sonné par les propos d'Abdul. Vous pouvez me prêter la bouteille un petit coup, juste, ça me ferait pas de mal.
Abdul lui tendit la bouteille. Bon, tu la veux, ta revanche?
Ben, on joue toujours. Pourquoi on jouerait plus?
Nedim reboucha la bouteille, un sourire aux lèvres.
Vous allez voir si je suis nul, putain, je vais vous me remettre alors là, mais bien.
Mais Nedim n'avait plus de cœur à jouer. Abdul Aziz lui flanquait un peu la trouille, complètement dingue, il se dit. Il serait mieux dans son pieu.
La douleur réveilla Diamantis.
Une douleur qu'il ne pouvait localiser. Il reposait sur le dos, les yeux grands ouverts. La chambre baignait dans une douce pénombre. Derrière les persiennes, il devinait la chaleur, la lumière du jour. Il était seul dans le lit et aucun bruit ne lui parvenait. Il en déduisit que Mariette et Laure devaient être partis et qu'il était tard. Il tourna la tête vers la gauche. Le réveil indiquait 9h-10.
Ce n'était pas si tard que ça, il pouvait dormir encore un peu. Ça lui ferait du bien.
Mais la douleur était trop forte. Il avait la bouche sèche, pâteuse. À côté du réveil, bien en évidence, un verre d'eau. Il sourit pour cette attention, mais non, il n'avait pas envie d'eau, mais d'un café. Un café, oui, ce serait pas mal. Il roula sur le côté. Les coups de matraque se remirent à pleuvoir sur son dos, ses épaules, ses jambes, ses bras, la même violence. Merde ! Il en perdit le souffle. Son cœur s'affola, comme cette nuit dans la rue. La peur qui remontait lui fila envie de pisser, pisser et boire un café.
« Bon, allez, fais un effort. s'encouragea-t-il. Son corps ne voulait pas écouter. Son corps martyrisé refusait de bouger et d'avoir mal. Il était mieux comme ça, dans le lit. « Mais même comme ça, tu as mal » s'engueula-t-il. « Alors si tu te lèves... » Tu te lèves, tu pisses, tu bois un café et t'avales un doliprane. » Il se répéta cela à haute voix, lentement, en bougeant une jambe puis l'autre. Il s'assit sur le bord du lit. « Deux doliprames, même. Ouais, et après, tu te recouches. Ça va ?» Non, ça n'allait pas. Chaque geste était comme un poignard qu'on lui enfonçait. Il fallait vraiment qu'il aille pisser. C'était à cause de toute cette bière qu'il avait bu hier soir. Encore heureux qu'il ne se soit pas fait sur lui pendant qu'il le bastonnait. Non, ça ne lui arriverait plus. Avant de quitter le bar, il était passé par les chiottes. C'était un réflexe maintenant. Pressé ou pas, il pissait avant de se rendre quelque part. Surtout s'il devait y aller à pied. Surtout si c'était la nuit. Il réussit à se mettre debout. Une fraction de seconde, puis il se plia en deux. Son estomac hurlait, saloperie de coups de pied. Des yeux, il chercha son caleçon, ne le vit pas, pas plus que ses vêtements. Quelle importance pour l'instant, il avança ainsi, plié sur lui-même, dans les toilettes, flottait une odeur de lavande. C'était à la fois agréable et écœurant. Il se traîna vers la cuisine. Les persiennes étaient entrecroisées, tout était en ordre propre. À côté de la cuisinière, une petite cafetière italienne, un paquet de café, un sucrier, une tasse, une cuillère, la boîte de Doliprane, son paquet de cigarettes et un briquet, et un mot de Mariette. Une belle écriture large, ronde, reste là, repose-toi, je te retrouve plus tard. Au-dessous de gros bisous, le nom et le numéro de téléphone de son médecin, au cas où. Cette maison respirait la paix, la douceur, le bonheur. Il prépara le café. Sur la place, des enfants jouaient, au foot. Ça se devinait à leurs cris. Il avala deux doliprane. Une gorgée d'eau remplit une nouvelle fois le verre et arrosa le basilic posé sur le rebord de la fenêtre. Son odeur se répandit immédiatement. Il aimait cette odeur. Elle appartenait à la quiétude de vivre. Il alluma la radio et s'assit devant la table, les infos. Avec son lot de violence et de haine, de mort, la Bosnie rappelait le Liban, et le Rwanda la Bosnie, et le Liban réunis. Empire, forcément empire, Hitler avait contaminé le monde. À Hiroshima, les Américains avaient expérimenté l'horreur, oui, mais avant encore, la guerre de 14 avait fait basculer l'humanité dans l'immonde. Et l'avant et l'après se ressemblaient comme frères et sœurs. Les hommes ne savaient faire que ça, s'entre-déchirer. Il manquait toujours un franc pour faire 6 sous. Alors on le volait aux voisins, qui appelaient les flics, on sortait son fusil, s'entre-tuer. Pour une femme, une bagnole, une clôture mal placée, un bout de terre piétiné, une religion, un pays, il y avait toujours quelqu'un qui se croyait meilleur, plus pur, plus juste, et coupait les têtes, assassinait, massacrait au nom de la raison. Diamantis changea de situation. Les mêmes infos, mais commentées. À Marseille, une école dans un quartier qu'il ne connaissait pas avait été saccagée par certains des élèves. On se demandait pourquoi. Le directeur, les profs, les parents d'élèves. Il éteignit la radio. C'était épuisant. Il but une seconde tasse de café en fumant une cigarette, se leva en s'appuyant sur le bord de la table comme un vieillard. Il se sentit vieux. Péniblement, il alla dans le salon, vers la chaîne Hi-Fi, besoin de musique, Santana, Dylan, Khaled, Verdi, Tito Puente, les Stones. Mariette avait des choix éclectiques. Il aima ça, il trouva ce qu'il cherchait. Gian Maria Testa. Sa voix emplit la maison. Ainsi bercé, Diamantis se rendormit en essayant de comprendre les paroles. « Je te sens sur moi et tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Pourquoi tu n'es plus là? Qui n'est plus là ?» Voilà pour ce soir donc la suite de ce roman de Jean-Claude Izot, Les Marins perdus, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.